Alors la deuxième instruction que je voulais vous donner, la première c'était le processus de la conversion, mais donc la naissance à la fois d'un être humain. Et maintenant on va essayer dans une vue très synthétique qui va vous paraître peut-être un peu dense. L'un d'entre vous m'a dit que mes exposés étaient un peu denses. Mais bon, c'est comme le gâteau breton, c'est bon aussi. C'est un peu dense, mais...
Une critique positive,
oui. Non, mais je l'ai reçu comme ça. Mais alors, on va essayer parce que j'aime bien les vues d'ensemble, vous voyez. Quand je commence mon cours aux novices, je leur explique le plan de la Somme de théologie. Et en général, ils sont emballés, comme moi, je l'étais moi-même. Quoi. Hein, parce qu'en fait, c'est souvent ce qui nous manque, c'est un peu le plan, la synthèse, la vue globale, la colonne vertébrale. Je suis frappé qu'on a des gens qui sont assez pointus dans un domaine, mais la vue d'ensemble fait quelquefois défaut. Or, c'est elle qui nous permet d'être efficace après quand on applique à quelque chose dans le détail. C'est aussi une des qualités de Benoît XVI d'avoir un sens aigu de la synthèse. Et il me semble que saint Thomas d'Aquin, donc, vous avez dit en conclusion de la conférence sur Vatican II, l'importance d'en avoir l'estime, est tout à fait un homme qui nous donne une vue synthétique efficace après pour la descendre dans l'application. Et il est important que chacun dans son domaine en connaisse suffisamment, hein, au moins l'esprit, en tout cas que les prêtres soient formés à ça. Alors là, pour la vie de la foi, j'ai essayé de regrouper deux aspects, l'aspect des sacrements et l'aspect de la vie intérieure. Vous voyez, la foi donc, reçue par le converti ou par l'enfant en baptême, hein, puisque... dans les milieux de chrétienté arrive à la foi avant d'en avoir même l'exercice puisqu'ils ont la lumière de la foi comme bébé baptisé. Mais alors ensuite il faut qu'elle vive, vous voyez. Et un élément très important, c'est le caractère objectif de la vie chrétienne. La vie chrétienne est évidemment fondée sur la foi, hein, la foi vivante par la charité bien sûr, hein. Mais il y a un caractère objectif et sacramentel qui est extrêmement important. Et qui permet justement, je vous parlais hier de ces gens qui viennent du monde de l'islam, très souvent par les évangéliques qui sont plus libres que nous pour se balader et peut-être plus. Qui ont des possibilités différentes. Et, mais beaucoup, enfin un certain nombre passent chez nous, entre autres à cause de l'Eucharistie. Et en tout cas à cause de la structuration sacramentelle de l'Église. Et ça c'est important dans une époque où il y a un retour des sectes et des choses mystico-dingo. Il faut vraiment enraciner notre vie chrétienne dans les sacrements, spécialement ce qu'on appelle les sacrements de l'initiation chrétienne, hein, le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. C'est l'axe, si vous voulez, hein. C'est là-dessus que je fais mes cafés cathés. Là, actuellement on est dans l'année de la confirmation, on va encore voir l'Eucharistie. C'est les sacrements de l'initiation dont les deux premiers impriment un caractère et les autres sont à leur service d'une certaine façon. Le sacerdoce au service de l'Eucharistie et le mariage au service de faire des nouveaux baptisés, etc. Et donc, c'est important de voir que notre existence chrétienne s'enracine dans des données, j'allais dire physiques, si vous voulez, enfin physiques avec beaucoup de guillemets. Hein, c'est pas simplement des impressions, des idées, des pensées, il y a tout ça, bien sûr. Mais il y a des réalités physiques, le caractère baptismal et le caractère de la confirmation. Et puis l'Eucharistie, le corps et le sang du Christ, quoi, qui sont des réalités qui sont là. Je vous ai dit que dans les conversions, un des éléments déclencheurs était souvent l'assistance à une liturgie. Hein. Parce que là, il y a la réalité physique. Dans une de ces romans que j'aimais assez bien, parce que c'est des romans, mais c'est près du réel, Volkov, Vladimir, a décrit la conversion d'un agent secret qui infiltre l'Église et qui se convertit dans la Sainte Liturgie. Et c'est extrêmement émouvant, surtout quand on connaît un peu le rite byzantin. Bon, ce type est chargé de devenir prêtre, évêque et tout, d'infiltrer l'Église. Bon, il y en a eu, comme ça. Et alors, mais en fait, il est attrapé, il se convertit. Et à un moment donné, en consacrant je ne sais pas à quel moment, si c'est la consécration de l'Épiclèse, il parle et il dit, bon, tiens, te voilà, toi. Le gars, c'est le Christ, quoi, qui persécutait dans les chrétiens, ben, il est là. C'est important parce que notre foi a besoin vraiment de l'Eucharistie et des sacrements pour se nourrir et pour pas être un truc. Oui, surtout pour vous les hommes. Hein. Nous on est un peu poilus quand même. Enfin normalement on n'est pas encore tous devenus des PD. Et donc ceci dit dans une intention explicitement polémique. Hein. Mais je veux dire que attendez, il faut. Moi je pense que c'est vraiment très important. Que voilà, les plus anciens d'entre vous me comprendront, notre religion ne soit pas présentée sous un jour trop sentimental et féminin. Vive les femmes, hein, je suis tout à fait pour elles, je suis un grand dévot de la Sainte Vierge, j'aime beaucoup ma mère, et puis aussi beaucoup d'autres femmes, enfin évidemment, en tout bien tout honneur, bien entendu. Mais vive les femmes, mais attention, la religion, c'est la foi et la foi dans l'intelligence. Et en particulier pour les hommes, si vous n'insistez pas là-dessus, bah, moi je suis pas pieux, moi. Alors, c'est ma femme qui va à l'église, moi je vais faire de la politique ou de la pétanque ou au café, quoi. Parce que ça ne fait pas pouic-pouic quand j'assiste à la messe. Ben, je peux vous dire, moi non plus, enfin très souvent, quoi. Je dis ça pour rassurer aux gens. C'est pas... La religion, c'est pas un truc de sentiment. Quand on a découvert ça, la foi, c'est pas senti. Hein. Donc c'est très important. Par contre, le baptême, on sait qu'on a été baptisé. Voilà, un fait historique et sur quoi on peut s'appuyer. La messe, elle est là. Oui. Et ça, c'est des réalités. Puis ensuite, on les étudie. Mais oui, c'est des réalités concrètes sur quoi s'appuyer. Ça va pas, peu importe, t'as le baptême, t'as la confirmation, t'as l'Eucharistie, tu avances. Oui. Et en plus, quand tu réfléchis, tu vois que c'est raisonnable. Ça se répond, ça correspond, ça chante, ça parle, ça sent. Tout ça, c'est bon. Hein. Mais il y a de la nourriture pour ta pensée. Oui. Donc, attention. Bon, maintenant, c'est peut-être un peu passé, ou je sais pas, je suis moins au courant que quand j'étais adolescent. Mais voilà, c'est pas une question de sentiment d'abord. Qui est du sentiment ou pas, ça peut dépendre des tempéraments. Et puis on a habituellement dans une belle liturgie, quoi. Bon, on est content, quoi. Enfin, je me souviens à la fin d'un rite arménien que j'assistais, il y avait le pot, parce que chez les orientaux, c'est souvent un pot après, quoi. C'est... Et alors le prêtre me dit, bah, comment vous avez trouvé la liturgie? Bah, je dis, bah, j'ai regretté que ça s'arrête, quoi. Au bout de 3 heures, tiens, j'avais pas vu le temps passer, quoi. C'est... On est au ciel, hein, vraiment. C'est... Donc ça fait quelque chose, mais ça fait quelque chose sur du vrai, vous voyez. Il faut de l'agréable, il faut du réel, mais il faut que cet agréable soit lui-même pris du réel, nous dit la couverture de Spectacle du Monde, je crois, citant un de nos classiques français, très justement. Quoi. Il faut que la liturgie est quelque chose de sensible, mais pris du réel, et du réel fondamental qu'est l'homme-Dieu, comme disent les Espagnols, sacramental, le Christ sacramenté. Le Christ. Alors donc, on va essayer de réfléchir à cette vie chrétienne en vue d'ensemble, cavalière, si vous voulez, progression de la charité, et puis les sacrements. Et on va essayer de coupler un peu les deux, hein. La vie purgative étant plutôt enracinée dans le baptême, la vie illuminative dans la confirmation, et la vie unitive dans l'Eucharistie. Évidemment, tout est enraciné dans tout, c'est pour pouvoir parler de façon plus éloquente et plus facile à retenir. Mais il est évident que chaque sacrement nous entraîne très loin. Il y a des gens, les Japonais, pendant 250 ans, n'ont eu que le baptême et le mariage. Et ils ont été jusqu'à la définitive, quand même. Hein. Oui. Mais enfin, voilà. Donc, je vous ai mis d'abord une citation de saint Thomas d'Aquin, qui rappelle, vous la lirez, en gros, ce que les auteurs spirituels, depuis très longtemps, spécialement depuis un certain Denis, le pseudo Aréopagite, bon, on a cru que c'était le Denis qui avait converti saint Paul sur l'Aréopage, c'est pour ça qu'on l'appelle l'Aréopagite. En fait, c'est un moine syriaque du 5e siècle qui a eu une importance absolument décisive pour la culture chrétienne. Il fait partie de ce qu'on appelle les précepteurs de l'Occident chrétien, qui sont saint Augustin, Boès et Denis l'Aréopagite. Alors saint Augustin est assez connu, hein, surtout que nous avons un pape augustinien, encore pour 6 jours. Quoi. Et Boès moins. Boès, c'est le dernier des philosophes, hein, le dernier des Romains, si on a dit. C'est vraiment, il a été étranglé par un roi lombard, c'est dommage. Il a quand même pu écrire des belles choses entre temps et traduire un certain nombre de textes philosophiques importants. Et donc c'est par lui que nous avons été en grande, que le Moyen-Âge a été relié à la sagesse latine et grecque. Et puis le Syriaque dont je vous parlais, qui nous amène la sagesse de Platon et d'Aristote, mais cristallisée. Et qui est un très très grand auteur, qui a eu beaucoup d'influence sur tout le monde. Et alors cet auteur-là, Denis, donc dit, voilà, il y a la vie purgative, on expie ses péchés, on a surtout le souci d'éviter de tomber. Souci dominant. Dès qu'on est en état de grâce, on a un peu des trois types de vie, si vous voulez. Hein. Il ne faut pas trop durcir. Hein. Mais cependant, au début, c'est vrai que bon, on fait gaffe, quoi. On s'écarte des occasions, on va pas dans certains coins, on fréquente plus certaines personnes, enfin voilà. Mais si vous ne faites pas, bonjour les dégâts, quoi. Vous allez retomber tout de suite, hein, c'est clair. Mais c'est le souci dominant, éviter le péché. C'est ça la vue purgative. Alors ça reste un peu jusqu'à la fin de la vie, sauf si on... Vous voyez, l'amour parfait met la crainte dehors, mais il faut qu'il soit parfait. Donc c'est vrai qu'on doit être attentif jusqu'au bout. Hein. Bon. Après, vie illuminative, c'est plus le souci d'avancer. Et ça, je crois que c'est très important. Hein. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire gaffe à ne pas se casser la gueule, comme on dit les gamins, à l'Académie française, mais il faut, il faut avancer, exercer la vertu. C'est le plus important. Je citais à l'un d'entre vous une phrase de sainte Thérèse de Jésus, d'Avila, qui disait, j'ai fait des fondations, donc quand on fait des fondations, on s'énerve, hein, c'est vrai, quand on agit, on s'énerve, parce qu'il y a des contradictions, il y a toujours des gens qui ne veulent pas que vous fassiez ce que vous êtes en train de faire, etc. Donc il faut rester calme, ce qui n'est pas facile, surtout avec certains tempéraments. Hein. Et elle a dit, donc j'ai fait des péchés véniels. Mais si je n'avais pas fait mes fondations, je n'aurais pas fait de péché véniel, mais j'aurais moins de charité. Quel est le but de la manip? Le but de la manip, c'est la charité maximale. Alors attention, on n'allait pas dire, le père Dominia fait de la pub pour le péché véniel. Hein. C'est pas vraiment ce que je veux dire. Mais il est plus important de viser la totalité de la charité, même en prenant quelques risques véniels, hein, que de se dire surtout, tu fais pas ça, tu gaffe, tout, attention, machin, bidule. Il faut aussi faire attention, hein, si vous faites la retraite, du Rosaire ou de Saint-Ignace, ou une autre, ou de Saint-François de Sales, ou de Saint-Benoît, ce que vous voulez, on vous dira, prenez des résolutions, faites gaffe, attention, tout ça. D'accord. Mais le but, c'est surtout augmenter la charité, donc développer la vertu. J'en parlais, enfin, je peux vous en parler pour la chasteté, peut-être j'en dirai un mot demain au sermon. Je crois que c'est beaucoup plus important, enfin, c'est très important de prendre des précautions en amont, hein. Et là, il faut verrouiller la fuite des occasions, hein. Là, c'est à chacun de faire son examen de conscience, hein. Parce que ne pas prendre certaines précautions, c'est prendre le billet direct pour la retomber rapide. Hein. Et en plus, on sait plus ou moins. Quoi. Donc, c'est pas bon. Donc là, il faut être carré. Quoi. Hein, la fuite des occasions doit être radicale. Hein, il y a un certain nombre de choses qu'il faut verrouiller. Quoi. Ça, c'est clair. Mais après, dans la présence de la tentation, c'est la vie en Dieu. C'est ce qu'on appelle l'invisible cristal de la grâce qui nous protège du démon. Il peut s'agiter, il ne peut pas rentrer. C'est beaucoup plus important d'être en lui. Parce que dans la chute, dans la chasteté, c'est d'abord un péché de désespoir. Obnubilation, je vous parlais ce matin, sur le mal, et tu ne peux pas résister. Donc il n'y a que la présence de Dieu, l'acte anagogique, hein, l'élévation de son âme en Dieu, la grâce est plus forte que tes simagrées. Même si je ressens quelque chose, d'accord, c'est bon. Et on ne va pas te problématiser, te chiffonner, d'avoir ressenti, etc. des trucs. On est quand même, voilà, c'est normal, on ressent un certain nombre de choses, mais on essaye de ne pas y consentir, même s'il y a un petit début de consentement, on n'en fait pas toute une soupe. Hein. Parce qu'on, à mon avis, on aggrave les choses. Hein. Oui, mais est-ce que je suis pas... Attendez, on n'est jamais entièrement propre. Hein. Si tu veux être propre, coupe-toi les deux mains, les deux pieds, et ne bouge pas, etc. Quoi, hein. C'est pas ça le problème. On est comme on est, quoi. Et je pense qu'un des grands ennemis, c'est la perfectionnité aiguë, qui sévit dans certaines communautés religieuses et dans pas mal de familles aussi. Hein. Qui, à quoi confine au gnosticisme, à mon avis, c'est-à-dire que faut vraiment tout, faut que tout, ah, faut être à fond là, faut être à fond, faut être à fond là, faut être à fond. Et après, tu craques. Burnout, ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est impossible d'être parfait. On peut être parfait, impeccable sur tous les points. Il faut se viser un objectif, il faut le suivre, et puis après, bon, savoir tolérer un certain nombre de choses qui peut-être se mettront en place dans notre vie ou un quart d'heure après notre mort ou au bout de notre purgatoire. Mais faire attention parce que sinon, avec des mondes, nous attrape beaucoup comme ça. Hein. En particulier, je pense aujourd'hui avec la surcharge. Il faut tout faire. Moi, quelquefois, je calme mes frères en disant, bon, tout est bon, qu'est-ce qu'on fait? L'art d'un fondateur est de dire non. Enfin, dire oui aussi, bien sûr. Mais si tu dis oui à tout, t'es fini. Parce que tu ne peux pas faire, c'est tout. Et donc, tu craques. Et dans vos vies familiales, professionnelles, c'est évidemment la même chose. Mais maintenant, il y a un tel souci de l'optimisation que je pense qu'il y a une erreur sur la nature même de l'esprit. Il ne peut pas faire... Donc voilà, mais cependant, le plus important, bon, après la lutte contre le péché, vie purgative, c'est d'avancer, vie illuminative, dans la vertu. Qu'est-ce que je vais faire de positif? Qu'est-ce que les œuvres de charité que je vais développer, ceci, cela, l'oraison, tout bidule, des choses à faire, voilà. Et voilà, un souci de progresser, ça c'est la confirmation qui nous booste là-dessus. Le père grec appelle ça la chrismation. La chrismation, c'est... Crème, si vous voulez, on est revêtu de la force même que le Christ nous donne, le Christ qui est loin de Dieu par excellence, qui nous donne l'onction. pour avoir son énergie. Et la confirmation est une énergie qui fait que le baptême peut sortir tous ses effets. D'ailleurs, on demande aux gens qui se marient, qui rentrent dans la vie religieuse, ou qui reçoivent le sacerdoce, ou qui sont parrains, d'être confirmés. Très important. Parce que ils vont, c'est la confirmation nous rend adultes dans l'Église et développe la totalité des forces du baptême. Donc c'est une grande force auquel il faut penser pour la vie illuminative. Pour, oui, pour progresser dans la vertu. Deuxième souci, avancer dans le bien. Et puis, troisième souci, s'unir à Dieu. S'unir à Dieu, c'est prendre le temps d'être heureux. On oublie ça, parce que la vie illuminative, c'est bon, c'est être avec... Donc je la rattache surtout à l'Eucharistie, bien sûr, parce que c'est la présence du Christ, la présence dans son sacrement. On est avec lui, d'ailleurs, en état de grâce, on a le ciel dans le cœur, enfin, on va dire ça tout de suite. Donc on prend le temps d'en profiter, quoi. Pour ça, il ne faut pas trop courir, vous voyez. Parce que je pense que... Je suis frappé d'une chose, c'est que il y a vraiment une espèce d'acharnement à être malheureux, enfin, même chez les cathos, quoi. Réfléchis 5 minutes, tu existes. Ah oui, tiens, je n'avais pas pensé, moi. Le monde n'est quand même pas si laid que ça. Regarde la Voie lactée la nuit, c'est quand même pas mal. T'es en état de grâce, t'es confirmé, tu peux aller à la messe. Oui, après ça, t'es malheureux. Non, mais c'est que t'as pas bien regardé, quoi. Quand vous voyez les gens qui se tapent 6 heures de manche à pied dimanche pour aller à la messe, et pour eux, ça représente quelque chose, quoi. Et nous, il faut valoriser ça, quoi. Faut accepter d'être heureux avec ça, quoi. C'est bien, non? C'est quand même, on n'y pense pas, mais c'est quand même sympathique. Hein. La joie d'être chrétien, c'est pas rien du tout. Hein. Et ça, c'est un peu, je crois, bon, j'essaye de vous monnayer un peu ce que on appelle la vie unitive, c'est-à-dire qu'on est uni avec le Christ, et donc, en tant que tel, il est bon d'en profiter, nous est bon d'être avec lui. Voilà, donc on va essayer très rapidement de survoler ces trois étapes, ou trois aspects plutôt. Parce qu'il y a des gens qui ont une conception quelquefois un peu trop matérielle, ils s'interrogent un peu trop où est-ce qu'ils en sont. Je crois qu'il faut savoir s'oublier aussi, oui. Il faut avancer, voilà, il ne faut pas se demander à quel degré des demeures de Sainte Thérèse ou de ceci on est. On avance, bon, c'est votre confesseur qui peut le voir, peut-être aussi, ou peut-être quelquefois, quand les gens progressent, ils ne s'en rendent pas compte eux-mêmes, mais leur entourage s'en rend compte. Quoi. C'est plus le même homme, c'est plus le même. Il a... Et lui, c'est drôle, parce que quand on est prêtre, c'est assez consolant. Ouais. Les gens qui viennent vous voir, quelquefois, ils ont l'impression qu'ils sont complètement dans le marasme, alors qu'en fait, ils ont déjà beaucoup avancé, mais ils n'en ont pas la saisie psychologique. Mais quand même, ils sont différents. C'est plutôt une question de réalité que de psychologie. Enfin, il y a la psychologie qui joue, mais ils sont quand même différents ils rayonnent ça. Voilà. Et les gens de l'extérieur le voient, mais eux-mêmes n'en profitent pas forcément parce que ça ne leur serait pas suffisamment utile. Oui, et Dieu leur en fait profiter dans la mesure où ça peut les aider à les encourager, mais pas trop pour qu'ils ne s'arrêtent pas. Oui. Pas trop pour qu'ils ne s'arrêtent pas, pour qu'ils ne se délèguent pas trop dans ce qu'ils ont. Ou qui risque d'avoir un peu d'orgueil ou tout ça. Donc en fait, ce que Dieu donne, c'est bon. Voyez. On dit souvent, on veut faire la volonté de Dieu. Moi, je pense qu'il faut toujours ajouter la sage volonté de Dieu. C'est-à-dire que ce qu'il nous propose est sage. Donc le degré qu'il nous donne d'avoir de l'union est celui qu'il nous faut. Alors quelquefois, il y a de la faute de notre part, et à nous de dégager des obstacles pour qu'il puisse se rendre plus présent. Alors d'abord, donc, baptême ou métanoïa, qui veut dire que l'esprit se retourne, hein. C'est le mot grec qui signifie le retournement de l'esprit. C'est le premier mot qui est dans l'évangile des évangiles. Il y a Jean-Baptiste qui prêche la métanoïa, le Christ qui prêche aussi la conversion, mais c'est vraiment, pas seulement la pénitence qu'on fait le carême et le vendredi, mais c'est le retournement du cœur vers quoi? Ben, tout simplement vers le réel, à mon avis. Le baptême, c'est le réel. On arrive dans le réel. Et donc, c'est la connaissance du fait qu'on est créé par Dieu, qu'on est pécheur, certes, mais qu'on est aussi sauvé par lui. Et donc, on découvre le réel. On découvre, d'une part, la grandeur de la création. Je vous en parlais hier dans l'homélie là, sur notre Saint-Père. Son insistance sur la théologie de la création, qui est un message de Dieu, Et de fait, dans le baptisé, est branché par son baptême sur le réel fondamental qui est Dieu et qui est lui. Newman disait « moi et mon créateur ». Il est branché là-dessus, Dieu m'a fait, c'est une bonne chose, il a fait le monde qui est très beau, et en même temps, bon, je suis un pécheur, mais le sang du Christ me réconcilie avec Dieu. Donc c'est vraiment une découverte fondamentale et auquel il faut souvent revenir, vous voyez, le monde est à la fois une tentation et une splendeur. Et le don de science que j'ai mis ici, j'ai mis des dons du Saint-Esprit qui nous aident à progresser dans ces aspects-là de la vie chrétienne. Le don de science nous fait voir le monde à la fois comme... nous tient en garde contre le monde comme tentation. Parce que du fait du péché, la beauté du monde peut être séductrice et on peut prendre des choses dans le désordre. Et don de science nous fait prendre du recul, vous voyez. Bienheureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les pauvres, c'est justement ceux qui prennent un certain recul. Bienheureux ceux qui pleurent en voyant le péché, etc. Parce qu'ils seront consolés. Et donc, il y a un certain recul qui, aujourd'hui, n'est pas suffisamment souligné malheureusement, dans toute une sphère de la théologie de la spiritualité. Ratzinger soulignait que on lisait plus, par exemple, assez l'imitation de Jésus-Christ. Alors, faut pas lire que ça. Il y a des limites. C'est un peu anti-intellectualiste, sur le bord. C'est un truc du XIVe siècle qui est très beau, qui est très grand. Il ne faut pas lire que l'imitation, mais il faut lire l'imitation aussi. C'est un très grand livre. De la sainte voie de la croix. Cherchez, vous ne trouverez pas en haut de voie plus sublime et en bas de voie plus sûre que la sainte voie de la croix. Je lisais ça dans la retraite, je me souviens, c'est moi qui lisais comme frère, donc je m'en souviens. Et très très belle chose. Actuellement là, pendant le carême, on lit un peu d'imitation sur les peines de cette vie et les joies du ciel. C'est immortel, vous ouvrez l'imitation, il y avait des saints qui faisaient ça, n'importe quelle petite phrase, pouf, tu décolles. Enfin, tu décolles pas, mais enfin, on reste quand même, on est quand même baba, quoi. Le type qui a écrit ça, il était pas bête. Enfin, il avait la foi, quoi. Il avait surtout le don de science. Ouais. C'est qu'il voyait le monde vraiment comme quelque chose de périlleux, ce qu'il est. Vous savez, le diable, la beauté du diable, le diable est vraiment beau, quoi. Voilà, donc il faut être en garde contre ça, et le Christ n'a pas prié pour ce monde-là, il est périlleux, il faut prendre ses précautions. Notre salut dépend quelquefois d'une main ou d'un pied coupé, enfin spirituellement. C'est des occasions, il faut trancher. Et ça bascule, et donc voilà. Alors ça, le don de science nous fait voir, on est menacé, si vous voulez, parce que notre foi, vous voyez, nous propose quelque chose d'invisible. Mais le monde, lui, est visible. Donc, on a besoin du don de science qui fait qu'on reçoit les choses de Dieu, que les choses du monde, vous voyez, ne nous empêchent pas de nous ouvrir aux choses de Dieu. Et souvent, c'est la première chose qui travaille, si vous voulez, les convertis. C'est que je vous ai dit, pour ça, c'est quelquefois l'épreuve, et ça, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte que ce monde est insuffisant. Et qu'il est périlleux, qu'il est trompeur, qu'il est traître, enfin qu'il est tout ce qu'on veut. Mais qu'on ne réagisse pas par la misanthropie, mais par la conversion. Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un monde où triomphe les vices, y chercher sur la terre quelques lieux écartés, où d'être homme d'honneur en est la liberté. Bon, le misanthrope. C'est pas vraiment bon, quoi. Mais disons, voilà, on est quand même trahi de toutes parts, quoi qu'on en veuille, on finit toujours par être un peu trahi par quelqu'un. Bon. Accablé d'injustice, plus ou moins, toujours, etc. Bon. Mais alors, la sortie, c'est pas comme ça vers le bas, c'est vers le haut. Et don de science nous fait sentir qu'on a quand même beaucoup mieux. Alors, c'est ce premier aspect du don de science qui protège notre foi. C'est une foi attentive. Vous voyez, je crois que c'était peut-être une leçon, peut-être que ce sont les traditionnels et les autres. Gens qui se préoccupent un peu de la spiritualité plus classique peuvent apporter dans ce que nous espérons être le renouveau, au moins partiel, dans notre Sainte Église. C'est précisément la sagesse, justement, de ces saints, de ces auteurs, de ces pédagogues qui, bon, disent, voilà, fais attention, tiens-toi en garde et tout, il y a ce péril-là et tout, sans tension excessive, quoi, c'est sûr, c'est pas peine d'être tendu, d'être... Mais quand même, c'est des réalités, quoi, il faut être réaliste. Hein. Et alors, il y a un autre aspect du don de science, c'est que il nous fait voir le monde comme un reflet de Dieu. C'est ce qu'avait saint François d'Assise, par exemple. Il voyait vraiment dans le monde la beauté de Dieu, les animaux. Enfin, il retrouve un peu l'innocence primitive, les animaux lui parlent de Dieu. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très précieux aussi, parce que C'est Romano Gardini, c'est un des pères spirituels de Ratzinger, dit « Dieu nous parle par trois voies, la création, la révélation et la conscience. Voilà. » La création, la conscience et la révélation. Et c'est la révélation qui unit les deux premiers. Dieu nous parle par la création, il nous parle par la conscience, parce qu'on sent le bien comme un absolu et le mal comme un truc absolument pas à faire. Tout le monde le sent, ça, et ça, ça peut être que divin. Et il nous parle par la révélation du Christ, qui unifie les deux autres. Et c'est très important de voir le monde, justement, ainsi, comme une parole de Dieu. Ça, il y a un optimisme, Ratzinger soulignait dans un texte que j'ai cité hier, dans un autre endroit du texte, que les... j'ai cité hier dans la conférence sur Vatican II, que les martyrs chrétiens ne maudissaient pas la création. Il n'y a pas... La marque du martyr, du vrai martyr, c'est qu'on bénit le monde, et même éventuellement les persécuteurs. Voilà, parce que les choses sont bonnes. Donc ça nous garde contre tout l'agnosticisme. Donc voilà, on découvre ça, on est créé, c'est une belle chose, dans un monde qui est beau, on est créé pour le bien, on est perdu, on sent que le bien, qu'on en est exilé aussi, c'est là l'aspect négatif du don de science, on sent que le monde est périlleux, on est exilé du bien, hein, mais on est sauvé et ressuscité par le Christ. Le baptême, c'est essentiellement ça, quoi. Plonger dans la mort du Christ et dans sa résurrection. Et ça, on l'a en nous. Hein. Si vous avez le caractère baptismal, je crois que c'est le cas de tous ici, hein, eh bien, vous avez ça. J'ai un père, chanoine, qui est mort maintenant, qui fait partie des gens qui étaient dans le groupe qui devait réformer la liturgie et qui s'est fait virer par Bounini parce qu'il était trop traditionnel. Et c'est un bon chanoine belge. Et un jour, il dormait un peu à son cours de théologie, parce qu'il devait être un peu rasoir, ce cours. Et alors, il s'est dit, tiens, mais en fait, je suis ressuscité, quoi. Je suis baptisé, donc je suis ressuscité. Et toute sa vie après, alors, il était grand connaisseur de liturgie byzantine, où cette dimension est très présente. Et c'est vrai que nous sommes ressuscités par le baptême. Donc voilà, premier point, oui, il y a une conversion à la réalité, quoi. Il m'est bon d'être créé, il m'est dangereux évidemment d'être perdu, en exil dans ce monde, mais par le baptême, je révèle Christ, et donc là, les choses commencent à rayonner. C'est très important, vous voyez, cette phrase qui a converti saint Augustin, revêtez-vous de Jésus-Christ, une phrase de l'Épître aux Romains, je crois. Revêtez-vous de Jésus-Christ. En fait, la morale chrétienne, c'est un rayonnement du mystère. Ça, je crois que c'est très important parce qu'on présente trop, si vous voulez, la morale. En fait, l'image que les gens ont de la morale chrétienne, c'est une image protestante qui vient de Kant et des piétistes protestants. Une image moralisante, etc., d'interdit. C'est pas ça. La morale chrétienne, elle est beaucoup plus byzantine et romane que protestante. C'est que c'est un rayonnement du mystère. La morale sexuelle en particulier est impraticable si on ne voit pas les choses comme ça. C'est le Christ qui rayonne en moi et qui fait que je vis la sainteté de mon corps comme un temple, etc. Donc ça à cause du baptême. Donc premier aspect, don de science, voilà, découverte du réel, premier réveil, hein, c'est une très belle chose. Alors ensuite, il s'agit d'enraciner tout ça. Souvent, c'est les convertis ont ce problème-là. Ce qui fait qu'on a aussi beaucoup de gens qui, après 2 ans de baptême, craquent, hein, des catéchumènes qui ne sont pas assez suivis, parce qu'ils n'ont pas de communauté qui les a reçus, qui les a nourris. Donc c'est capital, il n'y a pas que le catéchuménat, il y a le néophyta aussi. Hein. Et dans les convertis ou les deuxièmes conversions, ça arrive aussi, on est tout feu, tout flamme au début, et puis après ça peut s'enliser, on peut retomber, et ça peut être une vraie catastrophe. Parce qu'on n'a pas pensé à enraciner les choses. Je vous ai cité Claudel. Claudel, il lui a fallu... Bon, je ne vous canonise pas. Hein. Je sais que du coup, Bourget ne l'aimait pas. Je n'ai pas très bien compris pourquoi, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller lire sa prose anti-Claudel. Enfin, Claudel a quand même écrit des belles choses. Mais bon, il était agaçant, je le concède. La plupart des hommes de lettres sont agaçants. Vraiment. Mais peu importe. Hein. Il a quand même écrit des très belles choses. Et en tout cas, il était thomiste. Ça se sent dans la structure de plusieurs de ses poésies. Ben justement, pour le don de science, c'est lui qui a dit, dans le fameux texte La Messe là-bas, il a dit, à propos des choses créées, des créatures, hein, que justement, elles nous bouleversent, hein, parce qu'elles nous parlent de Dieu, inconsciemment. Et si ce n'était pas le cas, dit-il, nous serions en paix avec la rose, ce qui est magnifique. si leur voix n'était si touchante, si elle ne nous parlait si bien de Dieu, etc., les choses seraient pour nous sans question et nous serions en paix avec la rose. Et en fait, on n'est pas en paix avec la rose. Parce qu'elle nous blesse, parce qu'elle va mourir. Enfin, vous êtes peut-être en paix avec la rose, mais alors il y a peut-être un problème chez vous, quoi. Mais disons qu'un poète ne peut pas être en paix avec la rose, elle va mourir, vous voyez. Alors elle est belle, pourquoi meurt-elle? Enfin, c'est la racine aussi de l'étonnement philosophique. Hein. Pourquoi la beauté meurt-elle? Alors pourquoi le Christ doit-il mourir alors qu'il est innocent? Nous serions en paix avec la rose. Voilà, le don de science, c'est extraordinaire, quoi. La nostalgie du monde. Et vous avez des choses comme ça aussi magnifiques dans la poésie religieuse, ou même chez Villon. Hein. Où sont-ils? Où sont les neiges d'antan? Enfin, il y a des choses tout à fait sublimes que les chrétiens ont très bien senties. Qui est à présent également, je dirais à titre majusculaire, dans la saudade portugaise. Hein. C'est un mot intraduisible. Hein. Une espèce de nostalgie. Les choses sont une voie nostalgique, d'une profondeur qu'on ne peut pas atteindre. C'est le réel, c'est la réalité. Hein. Si on n'a pas senti ça, il y a un mystère derrière les choses. Il est là, mais ben, c'est le Christ qui est beau. Oui. Garde midi, le monde n'est ouvert qu'à un seul endroit, sans Jésus-Christ. Je trouve que c'est magnifique. Donc il s'agit d'enraciner. Et pour Claudel, j'ai été converti ici dans la pointe de mon esprit, mais je restais rationaliste, méchant, anticlérical, tout et tout là-dedans. Il faut que ça suive. Saint Augustin, il a mis 14 ans à arriver au niveau de son désir de conversion. Hein. Parce qu'il faut évangéliser l'intelligence, hein, la volonté, la passion et l'énergie. Messieurs, vaste programme, comme disait quelqu'un que je n'aime pas, hein, et que certains d'entre vous voient qui je vise. Vaste programme. Bon. Et ben, ça fait du boulot. Hein. Et ça, il faut s'y mettre, hein, parce que si vous ne les évangélisez pas, ils seront diabolisés, ou englués. Enfin, lisez la parabole de la semence et tout, ou étouffés, ou pas de temps, etc. Hein. Et en particulier, l'évangélisation de l'intelligence. Hein. Moi, je me consacre un peu à ça. Il faut évangéliser notre intelligence parce que sinon on est fragilisé. Et donc voilà, il faut que c'est la confirmation, je pense, qui nous aide à faire descendre la lumière de la foi, par le don de l'intelligence entre autres, vraiment dans tout notre être, hein, et dans l'éducation de l'être. Vous voyez, les convertis sont quelquefois très touchants, mais ils sont un peu mal polis, si j'ose dire, enfin l'équivalent de mal polis spirituellement, quoi. Ils sont gauches, vous voyez, ce qui est gentil, ils en font un peu, mais pas trop quand même. Parce qu'il faut que les choses soient mises en place peu à peu et qu'on rentre dans les pédagogies de la foi. Et il ne suffit pas d'avoir l'éclair bon, que le Christ est vrai Dieu et qu'on veut adhérer à lui. Le Christ évangélise la pensée, le courage, la justice, la prudence, tout. Les relations avec les autres, l'éducation, indirectement la politique, etc. Et donc ça, c'est tout un travail de descendre de la grâce en nous. Et donc, pour que le Christ puisse faire ça, il doit croître en moi. Donc, je crois que j'attribue ça, moi, au sacrement de confirmation. Enfin, il y a d'autres choses, mais on peut faire comme ça. J'ai revêtu le Christ au baptême, et il croit en moi, il déploie son énergie dans les potentialités de la confirmation, qui est vraiment la dynamisation des énergies du baptême. Et spécialement dans deux directions, à mon humble avis, et à l'avis de quelques autres personnes aussi, la contemplation et le service des autres, le service charitable. C'est pour ça que je dis, on peut peut-être attribuer un peu la confirmation, cette zone-là sacramentelle, de l'initiation sacramentelle, à la vie illuminative, parce que il me semble que on approfondit le mystère du Christ dans la lecture spirituelle, dans l'oraison, dans la prière. On se revêt du Christ, je dirais, non seulement intellectuellement par la doctrine, mais affectivement par l'oraison. Donc on est changé par ça. Dans les retraites, on essaye de faire prendre aux gens la résolution de faire oraison, ce qui est une très bonne chose. Et si on fait plus oraison, ben, il y a quelque chose de différent. Ça change rien, ça change tout, quoi. Et justement, c'est la preuve que c'est ce que je vous ai dit hier à la fin du sermon, quoi. C'est les choses, plus elles sont nobles, plus elles sont, on peut les bousculer comme ça, grossièrement, quoi. Elles font appel au caractère chevaleresque de l'esprit. Et il me semble que pour l'oraison, la contemplation, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut prendre le chemin de l'oraison, qui peut être différent pour les uns et les autres, mais il faut le prendre. Et spécialement, ce qui manque à l'oraison, c'est la lecture. Il faut lire. Il faut lire des trucs bien, évidemment. Et étudier, lire, dans la liturgie aussi. La liturgie est une des grandes sources de l'oraison. Saint Vincent Ferrier nous dit, la Sainte Messe est l'acte le plus élevé qui soit en fait de contemplation. Et pour saint Thomas d'Aquin, le religieux qui est diacre ou prêtre a un plus parce qu'il a quelque chose de plus contemplatif que celui qui ne l'est pas. C'est assez étonnant. Parce que pour lui, vraiment, la participation à la liturgie est un acte de contemplation. Donc on rentre dans la connaissance du Christ par la lecture et la liturgie. Voilà. Ouais. Et voilà, et les choses nous, disons, non seulement on les connaît, enfin, on révise son catéchisme, etc. Ouais, il y a un bon service qui a été mis en place là, par notre homme de chrétienté là, sur ce chapitre, mais il y a d'autres moyens aussi, mais c'est très bien. Et puis en même temps, on cherche à y vibrer, si vous voulez, de façon, je dirais, affective. Hein. Les dons du Saint-Esprit, ça joue sur le fait que si j'ai l'état de grâce, vous voyez, ça tend. J'ai la foi, puis j'ai l'état de grâce. Bien, avec l'état de grâce, j'ai 7 cordes qui sont tendues. Et c'est comme une lyre sur laquelle le Saint-Esprit peut jouer. Alors c'est une belle image, mais je crois que c'est... On dit que la Sainte Vierge, c'est une lyre très suave sur laquelle le Saint-Esprit joue à la gloire du Christ. Suavissima chitarra. Et je crois que c'est vrai de tous les âmes chrétiennes. Et peut-être qu'on est un peu trop timide dans ce domaine-là. Lisez les dons du Saint-Esprit du Père Gardeil, par exemple. C'est quand même quelque chose de très riche, et c'est une réalité, vous voyez. Et je suis frappé, c'est qu'en fait, selon ma petite expérience sacerdotale, tous les chrétiens ont un exercice du don d'intelligence dont ils sont souvent inconscients. Oui. Il y a quelque chose qui les frappe un jour en entendant le credo, son règne n'aura pas de fin. Hop, alors là, on n'est plus le même. Tu peux expliquer pourquoi? Non, tu ne peux pas. Mais son règne n'aura pas de fin. Ça, c'est le don d'intelligence. C'est le don d'intelligence. La science nous garde contre la séduction du créé. Et fait qu'on utilise le créé comme un tremplin, mais l'intelligence nous fiche dans le surnaturel. Il nous enfonce dedans. Sur son règne, n'aura pas de fin. Bon, pouf, est-ce qu'on prend ça en pleine figure? Je ne sais pas, mais enfin, on rentre dedans, quoi. Où je vous ai, je ne sais pas, par exemple, l'innocence de Dieu dont je vous parlais, qui a frappé Claudel au Magnificat. Dieu est pur, Dieu est innocent. C'est le don d'intelligence. C'est-à-dire que vous comprenez les choses comme une maman comprend le cœur de son enfant, ou comme des amants se comprennent entre eux. La parole est tout aussi nécessaire. Bon, c'est utile quand même un peu, il faut communiquer, hein. Les pierres vous diront ça, il faut communiquer aussi de façon logique et rationnelle, bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a une intuition, vous voyez, le cœur de la mère sent les choses et à la tête de l'enfant, voilà. Et ça, les dons du Saint-Esprit, c'est ça, et tous les chrétiens ont ça. Alors il ne faut pas dire oui mais c'est réservé aux gens très pieux, aux carmélites qui bouffent 3 pépins de citron et aux chartreux. Hein. Non, c'est pour tout le monde. Hein. Et je crois que si on ne s'occupe pas de ça, eh bien messieurs, faites gaffe. Hein. Parce que mon expérience, c'est qu'on recule. Dans la voie de la spiritualité, ceux qui n'avancent pas reculent. Et le père Gaïg ou Lagrange, qui était un célèbre dominicain, grand monsieur, que les monadistes n'aiment pas, ce qui est une raison de plus pour avoir grande affection pour lui. Et dans son cours de spiritualité, il y avait 5 ou 6 cardinaux au premier rang. Tout le monde lui tape dessus, mais tout le monde lui rend hommage quand même pour son cours de spiritualité. Et Garrigou Lagrange disait, bon, il y a les commençants, les progressants et les parfaits. Mais il y a des gens qui ne sont ni commençants, ni progressants, ni parfaits, qui sont des attardés. Il y a des grands adolescents de 35 ans qui sucent leur pouce en spiritualité, quoi. Parce que maintenant, l'adolescence, ça va très loin, quoi. Et voilà, des attardés. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a une sorte de timidité. On se dit c'est trop. Moi j'ai connu même certains prêtres qui avaient une perspective un peu faussée. Il faut d'abord bien en baver au point de vue ascétique et machin, et se remettre perpétuellement le nez dans un gna 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 gna, des trucs, bon. Et puis après, tu pourras peut-être ouvrir Saint-Jean de la Croix ou Élisabeth de la Trinité, ou si t'es gentil, comme sucre en plus, mais ça, en gros, sous-entendu, ça ne sert pas à grand-chose. Mais je suis désolé, moi je pense que c'est capital. C'est capital. Parce qu'on a besoin, parce que c'est vrai. Regardez Edith Stein, quoi. Elle lit la vie de Sainte Thérèse d'Avila, boum, dit c'est la vérité. Et beaucoup plus qu'on ne pense, vous voyez, les gens sont, ils ont besoin d'aller loin, quoi. C'est comme, autrefois, nous, la PMS, l'équipe qui recrutait le plus, c'était là où il y avait un capitaine mythique qui nous faisait faire des trucs invraisemblables. Parce que bon, on y allait à fond, quoi. C'est-à-dire, ça valait la peine de passer 3 semaines avec lui, plutôt. Bon. Et ben, je crois qu'en spiritualité, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que bon, chacun a son commando particulier. Hein. Je veux dire que pas tout le monde dans le même sac, d'accord. Puis bon, il y a des tempéraments plus calmes. Mais n'empêche qu'il faut proposer des choses, parce que les gens ont vraiment soif de ça. Je suis frappé que c'est vraiment. Ça intéresse les gens. Hein. Et ça intéresse tout simplement parce que, si vous voulez, quand on nous dit oui. Il faut faire une rencontre personnelle avec le Christ. Bah, bon, c'est un peu agaçant, parce qu'il faut dire de façon un peu chacha, un peu gentillette, un peu énervante, mais c'est vrai. Enfin, d'abord, on rencontre le Christ dans l'Église, donc c'est quand même. C'est pas que moi, il y a tout le monde, il y a toute l'Église. Mais la rencontre personnelle avec Christ, c'est le don du Saint-Esprit. C'est parfaitement vrai. Alors, c'est pas parce que les gens disent des choses de façon un peu énervante, il faut dire que c'est tout faux. Non. Il faut prendre ce qui est vrai. Et ce qui est vrai, c'est lisez Garrigou, lisez Gardeil, lisez Elisabeth de la Trinité, puis mettez-vous là-dedans. Hein. Thérèse, moi, j'ai attendu longtemps pour lire les manuscrits autobiographiques. Parce que je me disais, bon, elle est un peu énervante, cette sainte. Hein. Vu le style sulpicien et puis ses épigones, ça m'énervait un peu. Alors, je sais même pas si j'avais lu Histoire d'une âme. Bon, excusez-moi, mais je m'en suis pas confessé, mais enfin bon. Mais après, du coup, il y a 6 mois, j'ai lu tous les manuscrits autobiographiques. Alors, j'avais lu avant tout Saint Jean de la Croix, tout Saint Thérèse d'Avila. Ben, je peux vous dire un truc, ça ne va pas vous étonner, mais moi ça m'a étonné. J'ai été ébloui. C'est pas du tout c'est pas Guimauve, c'est la doctrine de Saint Jean de la Croix, vécue par une Normande de 25 ans. Et j'ai été complètement séché parce que je me dis, mais je comprends maintenant pourquoi tout le monde. Parce que c'est extraordinaire. Mais quand moi j'ai fait le détour. Je me suis rendu compte que ce n'était pas de la guimauve, parce que c'est exactement la doctrine thérésienne et joannique, mais présentée d'une façon, je crois, que tout le monde peut capter. C'est incroyable. Hein. Donc on a, voilà. Et ça, c'est de la mystique, c'est pas l'immonde de la 16. Hein. Oui, moi, je me souviens d'un gars, je lui parlais à propos des Saint-Ignace et de la retraite du rosaire. Tout est très bien, je vous ai dit. Hein. Saint-Ignace, bravo, rosaire, bravo. Bon. Alors je lui dis, tiens, vous faites la retraite du rosaire? Il dit non. Je dis, bon, pourquoi? Je la ferai quand j'aurai gardé mes résolutions de la retraite de Saint-Ignace. Je dis, cher ami, je ne vous verrai jamais. Parce que les résolutions, bon, ça va. On les garde, on les perd, on les reprend, mais bon. Par définition, on ne les tient pas, quoi. Je ne veux pas vous décourager. Donc le mec, je ne l'ai jamais vu. Puis en plus, je crois qu'il avait peur. Il y a des gens qui ont peur. Et bon, c'est une peur étrange, mais bon. Donc, mais pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a un moment donné, on a voulu réagir contre les protestants, contre le piétisme, contre le quiétisme, contre des tas de conneries. Enfin, excusez-moi, c'est pas destiné à l'académie, mon enregistrement, mais bon. On a réagi à fond en disant, il faut la volonté, il faut machin, des trucs précis, il faut obéir, il faut machin. D'accord. Mais attends, les pères de l'Église, ça existe? Saint Thomas d'Aquin, ça existe? Oui, ah bon, bah d'accord, bah, lisons-les aussi, non? On va pas lire que Saint Ignace et... Non, c'est important parce que je crois, je vais vous dire, moi je pense qu'une des raisons de foirade, enfin je ne sais pas si vous me comprenez, enfin, je veux dire que ça n'a pas marché tout, comme on l'espérait, de l'aggiornamento, qui a un bon sens, hein, je pense que c'est un excès de volontarisme. Moi j'ai connu des prêtres, puis j'ai du respect et tout, et souvent c'était les plus coincés qui avaient tellement ressenti les choses, tellement comme un carcan que pouf, il a tout envoyé promener. L'aggiornamento, c'est à mon avis le retour à Saint Thomas, à Saint Jean de la Croix. C'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire le sens de la prudence, pas seulement le légalisme et la loi, la prudence. La prudence, c'est pas se cacher derrière un brin d'herbe pour voir dans quelle mesure je peux tricher. Non, non. La prudence, c'est une chose vitale de l'action. Avec le sens que le réel est infiniment muable. Et c'est une vraie vertu extraordinairement importante. Bon, la prudence, c'est la dispense et le sens, voilà, des nuances. Et puis, c'est le grand souffle dont Gérard appelait ça la grande respiration catholique. Ben voilà, c'est ça l'aggiornamento. Tout en gardant, bien sûr, Saint-Ignace et tout ça. Mais je pense que c'est... Voilà, c'est à ça qu'il faut revenir, parce que c'est vrai, tout simplement. Et d'ailleurs, quand vous regardez la spiritualité patristique, ou même encore la spiritualité orientale, il y a cette dimension contemplative qui est extrêmement présente et mystique, au vrai sens du terme. Tiens, c'est pas irrationnel... Mais c'est au-delà de mes capacités naturelles et même de mes capacités d'expression. Mais c'est intelligible, hein. C'est comme ça s'adresse à ma... Le don d'intelligence perfectionne la foi et donc mon esprit, en tant qu'il saisit l'être. Hein. Attention, c'est très important. Et donc il faut faire en sorte par une vie purgative structurée, que la vie illuminative puisse se dégager dans la contemplation et dans le service des autres. Je vous en ai parlé dans la conférence sur la conversion. Et il faut servir le Christ non seulement en le regardant, dans la prière, la lecture, mais en le servant dans ses membres, dans les gens ratés, les petits, les gens qui nous cassent les pieds, les gens avec qui on perd du temps. Mais une chose qui m'a toujours beaucoup ému dans des aveux, enfin, ou des confidences de Cardinal Ratzinger, c'est qu'en fait, il aurait bien voulu rester dans ses bouquins, comme Saint Augustin, quand il était à Cassis Communis. Mais la charité, ça consiste à laver les pieds des autres. C'est pour ça qu'il a accepté l'épiscopat, et après le cardinalat, et ensuite le souverain pontificat. Parce que pour un intellectuel sortir de sa bibliothèque, c'est un vrai problème, excusez-moi. Donc il en est sorti trois fois, si j'ose dire. Et pourquoi? Pour laver les pieds des autres. Il y a les problèmes pénibles, les problèmes de gouvernement. Voilà. Et nous, on a tous les pieds de quelqu'un à laver, et c'est ce qui nous ouvre la capacité de contemplation. Parce que l'autre, c'est le Christ. Dans le jugement dernier, c'est ça. Même si on ne sait pas, c'est lui. Donc ça, je crois que enfin, la vie, cette phase illuminative se traduit aussi par le don, par la miséricorde, par la béatitude des miséricordieux, etc. Et c'est une phase d'action qui nous fait d'action, de contemplation qui découle dans l'action. Et d'ailleurs, c'est un peu le saut de la vérité des choses. À moins qu'on ait une vocation chartreuse, mais c'est pas la majorité des gens qui ont ça. De même que la huitième béatitude, c'est les persécutions, c'est pas une béatitude spéciale pour saint Thomas, c'est la vérification des sept autres avant. Si je vis ce programme curieux, qui en fait est le portrait du Christ, béatitude, et bien il va m'arriver la huitième. Qui est une béatitude, mais aussi une vraie béatitude, mais persécution, et puis le centuple, etc. Mais c'est, voilà, c'est quelque chose qui découle. Et je crois que pour la confirmation, enracinement de la vie de la foi en nous, donc contemplation et service des autres. Alors chacun doit trouver le domaine où... Je vous répondrai après, parce que sinon vous notez la question. Le domaine où il va pouvoir, ce qu'il sait faire, ou les circonstances. Saint Thomas d'Aquin nous dit, pour progresser dans la charité... Il faut désirer les degrés supérieurs de la perfection. D'abord, il ne faut pas les mépriser. Premier point. Ça compte. Parce que quand on commence à se moquer des gens qui font des efforts pour être pieux, on méprise les degrés supérieurs de la charité. Ensuite, il faut les désirer. Et après, les degrés intérieurs de la charité. Et ensuite, il faut désirer l'œuvre meilleure, c'est-à-dire désirer d'être capable de faire mieux. La méfiance même de faire un acte de charité. Désirer de se rendre capable d'extérioriser notre charité par des actes plus parfaits. Ça, c'est ce que tout le monde doit faire. Et après, il y a deux choses. On doit agir en fonction du degré de charité qu'on a déjà. Plus tu as de charité, plus tu es obligé dans la liberté. Tu es obligé comme un truc, plus c'est lourd, voilà, il va y avoir une accélération uniforme. Voilà. Bon. Et bien, plus j'ai de charité, plus ça me crée une loi d'amour. C'est très important ça. Parce qu'il n'y a pas retraite 62 ans, quoi, ou 65 ans. Après, on est bon, après on se cale là, on s'arrête, non. Et puis, dernière chose qui signale, c'est les circonstances, quoi. L'état de vie, marié, célibataire, religieux, prêtre, et les circonstances qui nous entourent, qui sont un appel à certaines œuvres particulières. Et un appel de Dieu. Donc en fait, c'est assez nuancé, mais au total, ça fait un beau programme. Ne pas mépriser les degrés supérieurs, les désirer faire mieux. Ça, c'est important, oui, dans la nature même des œuvres qui sont faites. Pour un prêtre, la messe, la confession, la prédication sont plus importantes que la kermesse, quoi, et que tout ça. C'est l'œuvre meilleure. Bon. Et puis ensuite, en fonction de l'état de charité et des circonstances. Et donc voilà, se revêtir de plus en plus du Christ et croître par le don d'intelligence, dans ce réel, qui est le fait qu'il m'envahit de plus en plus. Je crois que la vocation, c'est un peu ça. La vocation, c'est que le Christ envahit le champ de la conscience. Quoi. C'est le réel, quoi, c'est tout. Le Christ, qu'as-tu jamais abandonné pour le Christ, on trouve ça, en gros, dans une des méditations de Saint-Ignace, le Christ a fait ça pour moi, que ferais-je pour lui? Et puis aussi dans une vision qu'a eu le bienheureux Réginald, premier dominicain, qui était un chanoine bien confortable, et qui quand même se posait des problèmes, parce qu'il se trouvait un peu trop confortable, il a eu un rêve, et le Christ lui a apparu, « Qu'as-tu jamais quitté pour moi ?» Le lendemain, il rentrait dans l'ordre des prêcheurs. Un bel exemple. Hein. « Qu'as-tu jamais quitté pour moi ?» Quitté. Quitté. Mais ça semble la moindre des politesses. Quelquefois, les gens font toute une salade autour de la vocation. Moi, ça me semble très mal poli d'en faire une salade. Enfin, si le Christ nous appelle, c'est quand même pas mal, non ? On va pas faire des chichis. Est-ce que le Christ est assez bien pour moi ? Oh, mais une si jolie fille, pourquoi rentre-t-elle au Carmel ? Enfin, les gens, les parents, attention à soutenir les vocations. Hein. Pas seulement chez les cousins, hein, chez vos enfants aussi. Ah, mais il a fait l'ENA, qu'est-ce qu'il fait à rentrer chez les jésuites ? Ah, mais un type pareil, quel gâchis. Enfin, non, mais attends, on a envie de donner une paire de bœufs. Hein, c'est... Il n'y a pas que les brebis. Bon, mais il y a aussi des minables, moi, il y a tout. Il y a des brigands convertis, il y a des gens très gentils qui n'ont jamais fait un seul péché, etc. Il y en a qui ont fait des tas de péchés, et même des assassins. Dans notre ordre, il y a un assassin dont le nom est charmant, il s'appelle Caligno. Enfin, il s'est converti. Il avait assassiné quelqu'un, Pierre le Martyr a été assassiné. Et après, il s'est converti, il est rentré dans l'ordre et est devenu bien heureux. Bon. Donc oui, il ne faut jamais désespérer. Hein. Premier saint canonisé, c'est un truand. Quoi. Donc ça doit nous encourager. Mais c'est pour vous dire que, bon, c'était pour vous dire que voilà, ça, la vocation, c'est quand même... Il ne faut pas voir ça comme une espèce de truc surréaliste et fantasmagorique. Non, c'est... Attendez. Même, moi, je suis frappé parce que j'ai fait un topo sur la vie religieuse à mon café qu'été. Et j'ai senti la même chose que certains de mes frères quand ils font le topo dans les camps. Une espèce de... Pas qu'on est vexé, mais enfin bon, mais attends, mais c'est pas plus parfait. Bah, je suis désolé, si je te dis le contraire, je dis le contraire du Christ, quoi. Si c'est plus parfait. Le Christ te dit, quand je donne un billet, qu'est-ce que je ferais ? Il dit pas, bon, si tu veux être plus parfait, marie-toi, fais de la politique et dirige une entreprise, hein. Mais en effet, il faut être parfait en faisant ça, les gars. Je ne suis pas contre le mariage du tout. Hein. Mais il ne répond pas ça. Donc ne me dites pas qu'il donne quand même une bonne recette, hein, le Christ. Mais aujourd'hui, la différence est inacceptable. Même dans la vie, on a... Ah non, tout est pareil. Mais alors, tout n'est pas pareil, les gars. Je suis désolé. Hein. Le Christ ne s'est pas marié, il n'a pas fait de politique. Enfin, je suis tout à fait pour la politique aussi. Hein. Il n'a pas fondé une entreprise. Voilà. Et donc, celui qui fait ça, fait ce qu'a fait le Christ. On ne me dit pas que tout est pareil. Alors ça, c'est les modernos, ils n'admettent pas qu'il n'y a aucune différence nulle part. Je suis désolé. Et donc, même si vous, vous n'avez pas la vocation, je crois qu'il y a des gens, en fait, soit ils sont vexés parce que c'est différent, soit peut-être ils se disent, tiens, je suis peut-être appelé, mais alors, non, mais alors, oui, mais... Alors ça veut dire que tout le monde doit faire ça. Je dis, attends, tu fais ce que tu veux. Hein. Moi, j'ai la pognon entre eux, mais tu fais ce que tu veux. Mais il ne faut pas essayer de diminuer ceux qui disent oui, parce que toi, tu as envie de dire non, quoi. Je sais pas, non mais dans la chrétienté, autrefois même dans les pays assez peu producteurs de vocation, enfin en Amérique latine, tout le monde est catholique. Ah, ils sont nous catholiques, mais bon, les prêtres c'est plutôt les missionnaires. Bon, mais quand il y a une vocation, bah voilà, il y a une vocation, ah c'est bien et tout, au Moyen-Orient, moi, j'ai pas la vocation moi, mais tant mieux qu'il y en ait une, quoi. Chez nous, il y a des mères de famille, on se demande si elles font pas en sorte de 3 mois de rallye pour faire foutre en l'air 8 ans de scoutisme. Hein. Non, mais excusez-moi d'être un peu direct, mais c'est quoi fait qu'il est d'accord avec ma formule, quoi. Bon. Il y a des gens qui sont casse-pieds, je vais vous dire. Alors après, on s'étonne un peu que, bon, attendez... Non, mais il faut avoir l'estime des vocations religieuses en particulier. Hein. Il faut essayer de convaincre vos prêtres. Enfin, je crois que j'ai à peu près convaincu vos trois, là, mais ils étaient déjà bons. Que la vocation religieuse, c'est important. Ben, important même pour les prêtres séculiers, il faut des prêtres séculiers, des religieux et des familles. Puis n'oublions pas les célibataires forcés qui font se voir. Bon, enfin disons, voilà, parce que c'est vrai que souvent on s'en occupe pas d'eux. Mais les trois sont indispensables. Et je crois que l'estime, je vais vous dire un truc. La crise actuelle, de quoi elle vient ? En partie de ce que je vous ai dit, qu'on n'est pas revenu à Saint-Saint-Thomas. Et aussi du mépris de la religion. La religion comme vertu morale. Or, la religion comme vertu morale, parce que la charité, etc. Bon, d'accord, on dit la charité. Il y a la religion. La religion comme vertu morale, elle gouverne la liturgie et la vie religieuse. Et c'est les deux trucs qui ont subi la pire des crises. Donc, réaction, on se remet à être bien religieux. Au sens qu'on estime que c'est important. La religion, c'est la vertu morale la plus importante. Juste en dessous de la foi, espérance, charité, il y a la religion. Qui mêle, c'est l'art de transmission pour les roues. Le moteur, c'est l'ordre théologal, mais très important. Et donc, ayant l'estime, et en particulier l'esprit de sacrifice, vous voyez, ou pas estimer uniquement ce qui est riche, ce qui réussit bien, ce qui est beau, ce qui est machin. Bon, évidemment, on ne l'estime pas ce qui est Ce qui est déficient, on ne l'estime pas naturellement. Mais le Christ s'est penché sur ça. Et donc, on doit le pauvre à sa place chez nous. Enfin, le pauvre, même mentalement, je veux dire. Hein. Et ça, les enfants, ils sentent. Hein. S'ils sentent que pour les parents, l'important, c'est voir est-ce qu'il va intégrer l'X ou normal sup, hein, ou les ponts, c'est vraiment le plus important, quoi. Ou est-ce qu'il fait bien du cheval ou du machin, enfin, tout ça, je suis pour à fond. Hein. Je suis en famille de cavaliers, donc je te fais faire du cheval. Mais voilà, mais tout ça est très bien, mais attendez, les enfants, ils sentent tout. Hein. S'ils sentent que pour vous, le sacrifice, tout ça, bon, c'est bien dans les bouquins, mais concrètement, doucement, quoi. Bah, alors attention, il n'y aura pas de vocation. Si à table, vous êtes toujours à critiquer les curés, hein, bah, il y aura moins de vocation chez vous. Bon, je sais bien qu'ils sont critiquables. Je vous ai dit que si l'Église a un signe de divinité, ce qu'elle résistait à tous les curés depuis 1000 ans. Mais enfin, attention, il faut aussi parler. Parce que Chidimbo, il explique ça très bien. Il dit, nous, le prêtre, il venait, toutes les familles invitaient le prêtre, et puis, et c'était un nonna, et tout, et le prêtre, et les enfants, et on est le prêtre, c'était un nounoué, et tout. Ben, voilà, le prêtre, il faisait. Et on ne parle pas comme mal des prêtres. Attendez que les enfants soient sortis pour dire ce que vous avez à dire, ou peut-être ne le dites pas, parce que c'est banal, quoi. Le mal est assez banal. Dites plutôt les qualités, quoi. Ça, c'est plus rare. Et comme ça, vous parlerez moins, quoi. Si on parle des qualités, on parle beaucoup moins. Bon. Quand on eut tout dit, on parla du prochain. Hein. Et en général, on parle du prochain pour dire du mal. Et ça ne sert à rien qu'à nous vider. Et je peux vous dire un truc, j'étais 32 ans supérieur. Hein. Par le nombre de saloperies qu'on entend, merci mon Dieu, hein. C'est incroyable. Alors, en confession, aucun problème. Hein. Vous pouvez me dire que vous avez tué 6 personnes, je suis entièrement cool, vous serez étonné de ma suavité extraordinaire. Bon. Toutes les plus monstrueuses en confession, on n'est pas nous. Pour moi, c'est un miracle. On est le Christ, point à la ligne. Et hors confession, surtout comme supérieur, on entend des trucs. En plus, c'est complètement banal, quoi. Monsieur le cardinal couche avec une femme et tout, mais je m'en fous. Arrête ton truc. Non, mais c'est complètement con. À quoi ça sert? C'est dégueulasse. Enfin, raconter tout. Mais bon, c'est banal. Peut-être, souvent, une fois sur deux, c'est une médisance ou une calomnie. Enfin. C'est faux, c'est pas vrai, moi je m'en fous. Surtout, c'est la personne qui me dit ça, qui met ça dans mon estime. Hein. Ça sert à quoi de raconter des trucs pareils? Il y a des raisons précises. Hein. Si vous communiquez le péché mortel de quelqu'un sans avoir une raison valable, vous faites un péché mortel. Point à la ligne. Il faut que ce soit une autorité qui peut agir, ou une raison grave de communiquer la chose. Sinon, vous ne devez pas en parler. Faites très attention à ça. Hein. Pas peine de faire des tas de péchés mortels, d'aller en enfer, pour avoir dit les péchés mortels des autres, que vous allez retrouver en enfer, les gars. Hein. C'est en bonne compagnie. Hein. Non, il faut faire très attention à ça. Donc c'était pour vous dire que bon, le mal, c'est dégueulasse, c'est habituel, il suffit d'ouvrir un polar, il y a du mal, du péché, du sel, du tout. Par contre, la vertu, c'est beaucoup plus intéressant. Les vies de saints, c'est étonnant. Surtout les saints dont on voit les défauts, parce qu'on se dit, tiens, on pourrait peut-être être saint, moi aussi. Maintenant, il y a des bonnes vies de saints, on voit les défauts. Bon. Et ça, c'est intéressant. L'histoire, c'est intéressant. Et par contre, le mal, c'est banal. Hein. Et non, mais c'est important, ce que je vous disais, le premier point, il faut s'étonner du bien, quoi. Comme disait Molinier, d'accord, scandalise-toi du mal, mais d'abord et avant tout, scandalise-toi du bien. En fait, le scandale du mal est impossible sans le scandale du bien. Si je suis bouleversé d'un visage défiguré par une maladie, c'est que j'ai saisi la beauté du visage humain. Toute saisie du mal suppose une saisie du bien. Donc, scandalisons-nous à fond du bien, qui va nous amener à Dieu. Voilà. Alors après, on va se scandaliser du mal, mais comme Mère Teresa, c'est-à-dire en agissant pour le combattre. Et on sera beaucoup plus constitué. Voilà, donc enracinement, en contemplant le Christ et en soignant. Et enfin, dernier point, l'Eucharistie ou la joie, parce que c'est la présence, hein, donc l'union avec le Christ dans l'Eucharistie, où il est réellement présent, et où son corps et son sang nous gardent pour la vie éternelle. Alors dans la messe, le Christ est présent. Dans son mystère pascal, sur sa mort et sa résurrection, formellement, c'est la réactualisation, si on veut, enfin, on cherche les mots de la croix, mais le Christ qui est là dans la messe, il est dans la gloire. Très important. Faire attention, parce que quelquefois, certains tradits perdent ça un peu de vue. C'est pas du modernisme que de dire que le Christ, tel, quand je le consacre, celui qui vient, c'est le Christ glorieux. Certes, ça réactualise la croix. Hein, formellement, c'est ça, c'est le mémorial de la. L'immolation mystique qui rend présente, si on peut s'employer, c'est difficile, le mystère de la croix. Mais le Christ est ressuscité. Et c'est pourquoi dans la messe, il y a une dimension glorieuse et l'orientation, la raison fondamentale pourquoi les nefs, les églises, aussi bien en Orient qu'en Occident, sont orientées. Avec la zone des catéchumènes, la zone des fidèles, la zone du clergé, la zone du prêtre. Parce que l'Orient, c'est le Christ. C'est le soleil qui se lève, hein, c'est le symbole du Christ. Et c'est la gloire. Et c'est ce vers quoi va l'humanité et vers l'Église. Et l'Église va. La messe, c'est ce qui fait fonctionner l'Église jusqu'à l'Orient de la parousie du Christ. Et ça, c'est merveilleux. Dans les coupoles romanes, vous avez. Ça représente le ciel derrière. Chez les Byzantins, il y a l'iconostase. Et derrière, c'est les anges et c'est le ciel. Et donc la messe, c'est sûrement ce vaisseau. Je vous disais cette citation de Saint-Exupéry, plein champ, pleine voile. On sentait que ça allait quelque part. La messe va vers l'éternité. En fait, la messe, c'est déjà l'éternité qui descend. Nous qui représentons mystiquement les chérubins, c'est quand même pas mal, hein. On représente mystiquement les chérubins. Déposons ici toute sollicitude de ce monde, afin de fêter dignement le Christ qui vient, le roi de gloire, qui vient invisiblement escorter des armées angéliques. C'est ce qu'on chante dans la grande procession de l'offertoire au rite byzantin, grande entrée. Et de fait, le Christ vient, il y a un renouvellement de la croix, mais dans un mystère glorieux, parce qu'il a déjà gagné. Et quand on va communier, on va voir sa puissance de résurrection, et c'est pas le Christ tel qu'il était dans le tombeau que je reçois. C'est le Christ ressuscité. Mort et ressuscité pour moi. Et donc, vous voyez, l'Eucharistie est vraiment la source de. Enfin, on s'y unit, si on ne peut pas aller à la messe, on s'unit dans son cœur. Mais on y va, quoi. Le dimanche, c'est automatique. Enfin, c'est le dimanche, hein, la messe. Hein. C'est dimanche. Le Christ n'est pas ressuscité samedi soir. Hein. Enfin, je signe ça au passage. Bon, si vraiment en dépannage et tout, il y a une opération commando le lendemain, bon, d'accord. Mais on ne va pas à la messe samedi soir pour dégager tout dimanche matin pour le foot ou les régates. Hein. Bah, ce que je vous dis, ce n'est pas une banalité, malheureusement. Et pourquoi? Bah, je ne sais pas comment vous dire. Moi, quand je me suis converti, c'est automatique. Le dimanche, j'organise mes vacances en fonction du dimanche. Le dimanche, tu ne peux pas faire autrement que d'aller à la messe. Pourquoi? Bah, t'en sais rien, mais tu vas à la messe. Même si tu vas aller à Viet Minh, ils vont te flinguer dans un coin. Tu y vas, c'est tout. On y va. Bah, je vous l'ai dit, en Afrique, il y a des mecs qui marchent 5 heures pour avoir leur messe du dimanche. Parce que c'est notre vie. Ratzinger a cité c'était déjà Benoît XVI, dans un congrès eucharistique, une phrase d'un des martyrs auquel le procureur dit « Mais qu'est-ce que vous faites là, vous réunir et tout ?»« Sine dominica non possumus. » Sans le dimanche, on ne peut pas vivre. Et c'est Père Emmanuel du Ménil-Saint-Loup, hein, donc un prêtre bénédictin olivétain, qui était à la fois curé de paroisse, estimait que la sanctification du dimanche était le cœur de la vie chrétienne. Et que si vraiment on sanctifie le dimanche, il y a une montée de la semaine dans le dimanche, et après on vit de l'évangile du dimanche, hein. Si on prend du temps pour lire ou pour prier en famille le dimanche, etc., ça change toute la semaine. Mais une messe, pas vite fait sur le Zang, hein, en une demi-heure. Hein. Ça, c'est, attendez, exceptionnellement, mais attendez, on prend son temps. Il y a la messe des chasseurs, le sel, mais enfin, ce qu'il faut absolument que vous chassiez tout le temps, même quand c'est pas la chasse. Enfin, bon. Mais attendez, on prend la messe, on prend son temps, on y va. Sinon, bon, on n'est pas tous encore en camp de concentration. Là, peut-être on peut un peu écourter, faire l'offertoire mentalement, les paroles de la consécration avant que le Bodoï revienne pour nous étreindre, pour nous exécuter. Mais ça, bon, ça peut venir, et donc on s'entraînera un peu. Mais normalement, on déploie les choses, quoi. Et c'est comme ça que notre âme respire. Enfin, je sais pas, ça me paraît évident. Toutes les bagarres autour de la messe depuis 40 ou 50 ans, elles me semblent tout à fait fondées, quoi. Parce que c'est un enjeu terrible, hein. C'est la façon dont je peux honorer le Christ. Hein. Et donc, dans la messe, j'ai un rapport avec lui que je n'ai nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. D'ailleurs, Saint Vincent Ferrier prêchait toujours dans la messe ou après la messe. Et c'est vrai que quand on prêche, un diacre ou un prêtre, un évêque qui prêche pendant la messe ou après la messe, enfin, il communique quelque chose qu'il ne communique pas dans un entretien comme je vous fais là maintenant. Il y a vraiment une communication sacramentelle, la prédication comme continuation du sacrifice, qui est quelque chose de très grand. Donc voilà, et cette messe, donc, où nous communions en état de grâce, où que si on a conscience d'un péché grave, il faut le confesser avant de communier. Sauf il y a deux ou trois cas tout à fait exceptionnels, dont je vous parlerai, mais bon, c'est plutôt exceptionnel. Dans nos pays, ça se présente moins. Et pourquoi? Ben parce que Saint Paul le demande. Parce que le catéchisme du Concile de Trente le demande, et parce que le catéchisme de l'Église catholique le demande, et parce que ça correspond à la nature des choses. quand on, c'est un signe de l'alliance, et donc il faut que notre cœur soit déjà dans l'alliance, dans la grâce, même s'il y a des péchés véniels. Hein. Pas une position janséniste, mais cependant, il faut avoir la certitude sacramentelle du pardon pour retrouver le contact sacramentel avec le Christ. Sauf quelques cas tout à fait limites, qui sont peu présents dans l'ordinaire de notre vie. Et voilà, donc c'est chez les Russes, normalement, vous devez avoir assisté aux vigiles de la veille et confession, le samedi, avant de communier le dimanche. Alors, on n'est pas si rigoureux que ça chez les Latins, mais attention, ça compte. Hein. Ça compte parce que c'est pas avec une communion sacrilège que vous allez améliorer votre vie spirituelle. Hein. Moi, j'ai une expérience d'un truc que je fais, je pose souvent la question. Je dis, bon, et je m'aperçois que souvent, on le dit plus. Bon, on le dit plus assez. Alors, il faut le faire redécouvrir, hein, cette importance de retrouver la grâce sacramentelle. Et bon, et dans la communion, donc on est unis avec le Christ ressuscité. Et là, je crois que je joue le don de sagesse. Hein, c'est une façon d'apprécier les choses qui changent. On est dans la sagesse chrétienne et qui se prolonge ensuite par la vie avec la Trinité qui est dans notre âme. Hein, l'état de grâce augmente dans la communion. Il est orienté. C'est beau quand un prêtre donne la communion parce qu'il ne sait pas quelle grâce ça va répondre. Alors, on donne la communion. Chacun reçoit la grâce dont il a besoin. Ça oriente l'état de grâce vers la question, l'aspect dont la personne a besoin spécialement à ce moment-là. Donc, c'est extrêmement émouvant. Enfin, ça m'est arrivé au Pélé de Chartres. On a quelquefois des retours impressionnants. Première confession, ou confession la première depuis 30 ans. Et là, c'est une personne qui se convertissait. Et elle va juste baptiser, quoi. Et après, bon, c'était la messe du dimanche, donc il y a quand même déjà du monde. Hein. Et sauf que c'est moi qui l'ai communié, cette personne que j'avais confiée. C'était très émouvant. C'est une petite attention. C'est pas un miracle, hein, mais c'est un petit signe providentiel, quoi. Quand vous absolvez quelqu'un, et après, c'est vous qui lui donnez le Christ. C'est fantastique, quoi. Et donc, l'état de grâce, vous voyez, peut porter incandescence dans le sens dont on a besoin. Et ensuite, on vit avec l'Eucharistie et la présence du Père, du Fils et de l'Esprit dans notre âme. Et c'est quelque chose de très nourrissant. C'est pour le père Garrigou Lagrange, citant un vieux père dominicain du XVIIe, le père Chardon, La Croix de Jésus, un magnifique livre. Mettons en lumière cette vérité, la plus importante du christianisme, à savoir que la Trinité habite dans notre âme, par la grâce. Alors ça, je crois que c'est une... Bon, vous avez une carmélite de Dijon qui a mis, par son talent poétique, et c'était une musicienne aussi, une pianiste, et sa capacité d'intériorisation, elle est morte très jeune comme Thérèse de Lisieux, et qui a bien mis ça en lumière, qui a fait une très belle élévation à la Trinité, et je pense que c'est un point très important, parce que ça, personne ne peut nous le prendre, même s'il n'y a pas de sacrement. Si on a l'état de grâce, on descend en soi, il y a le Père, le Fils et l'Esprit. Il y a le royaume de Dieu qui est au-dedans de nous par la grâce. Oui. Au fond, leur raison, c'est un peu ça. Par exemple, on commence avec l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est d'être dans le réel. Il y a Dieu qui me crée, et moi, et Dieu est dans mon âme. Le ciel, c'est Dieu, et Dieu est dans mon âme. Le jour où j'ai réalisé cela, ma vie a été transformée. Élisabeth de la Trinité. C'est une très belle et très profonde perspective. La Trinité sainte est dans l'âme, c'est le germe de la gloire. Nicolas Cabasilas, qui était un théologien laïc byzantin du XIVe, le dernier avant la chute de Constantinople, a été cité à plusieurs reprises par le cardinal Ratzinger, expliquant qu'en fait le ciel, la vie est le laboratoire du ciel. Là-bas, nous entendrons la voix du bien-aimé. Là-bas, nous jurons de son amitié. Mais encore faut-il avoir des oreilles. Les oreilles, elles se façonnent ici. Les oreilles de la foi vont nous permettre d'entendre sa voix dans l'éternité. La vie actuelle est le laboratoire de tout cela. L'éternité, je crois que parfois, il y a une perspective un peu insuffisante. C'est pas une durée qui n'en finit pas, essentiellement. C'est l'explosion du réel. Et du réel que nous avons vécu, vous voyez, ce que nous avons fait de bien dans la grâce reste. Et même nous le revisiterons dans l'éternité. Ça ne sera pas une espèce de chose tout à fait extérieure. C'est la vision de Dieu, Mais Dieu nous montrera notre état de grâce dans notre vie, et comment il a fructifié, ce qu'il a fait, et les fruits qu'il a portés, et nous verrons les choses à l'endroit. Hein. Nous-mêmes, nous verrons à l'endroit. On verra Dieu en train de nous créer, si vous voulez. Et donc là, les choses prendront leur sens. On les devine seulement maintenant. Mais au ciel, on les verra. Et c'est pas, je crois, très important d'insister sur l'idée que c'est la réalité. Parce que quelquefois, les gens s'imaginent, bon, il y a la vie quotidienne, ça c'est vrai. Et puis il y a la vie religieuse, on se shoot un peu pour oublier le quotidien qui est un peu sombre. Bon, alors perspective insuffisante à mon avis. Non, il y a le fait que justement, la vie de la foi, la vie de la grâce, surtout là, avec cette habitation de notre Trinité, nous fait voir les choses comme illuminées de l'intérieur par l'amour de Dieu. Comment ça se fait que saint François et d'autres saints voyaient les animaux et tout ça, comme ils les voyaient dans leur réalité, voyaient le monde comme le voyait un peu Adam, quoi, comme une parole de Dieu, mais en plus lumineuse de la grâce du Christ de l'intérieur. Quoi. Donc c'est très profond, hein. C'est très nourrissant. Voilà. Et alors je pense que l'Eucharistie nous nourrit ça, et que c'est à notre portée. On est frappé de la sagesse qui peut se dégager de gens même très simples, parce qu'ils vivent profondément de ces très belles réalités. Voilà, donc j'en resterai là pour cette instruction.